La Pérouse, récit de son voyage, expédition envoyée à sa recherche, le capitaine Dillon, du mont d'Urville, relique de l'expédition. 1888. Chapitre 1. Le 1er août 1785, le quai de Brest, qui s'allonge, sinueux, depuis le château, jusqu'à la chaîne qui fermait la ville sur la rivière de Penfell, présentait une animation extraordinaire. L'intendance, la forge du bassin au-dessus de laquelle était, si bizarrement logée l'académie de marine, le contrôle, les magasins, la corderie et le magasin au goudron, qui s'alignaient en face des cales et des ateliers de mâture, de menuiserie et de peinture de recouvrance, semblaient abandonnés. Une foule compacte d'ouvriers et de matelots, de soldats et de gardes marines, et parmi laquelle on remarquait un assez grand nombre d'officiers supérieurs, se dirigeaient vers la rade. Pourtant, ce n'est pas un spectacle bien extraordinaire, dans un port militaire, que l'appareillage de deux frégates. Mais à cette époque, partir pour plusieurs années, aller faire le tour du monde, cela ne se voyait pas tous les jours. Les matelots et les canonniers de la boussole et de l'astrolabe étaient, pour la plupart, originaires de Brest ou des environs, et les officiers des deux bâtiments comptaient parmi les meilleurs et les plus estimés du port. Aussi ne fallait-il pas s'étonner qu'à Recouvrance, aussi bien qu'à Roscanvel et à Plougastel, l'émotion fut grande. Tous avaient pu juger de l'importance que le gouvernement, ou plutôt le roi, car c'est en lui que s'incarnait alors le gouvernement, attachait à cette expédition, par la sollicitude avec laquelle le commandant de la marine, le comte d'Hector, avait suivi tous les détails de l'armement. Certes, il n'aurait pas déployé plus de zèle s'il avait dû s'embarquer lui-même. N'avait-on pas vu s'entasser dans les soutes vivres et provisions, marchandises de toute nature et de toute espèce, destinées au présent et aux échanges? Ne disait-on pas que le roi lui-même, pour preuve de l'intérêt qu'il portait à sa réussite, avait contribué à dresser le plan du voyage? Tous ces bruits étaient exacts. Louis XVI avait voulu mettre à profit les loisirs que la paix de 1783 avait créés à sa marine pour continuer les découvertes de Bougainville, compléter les travaux de Cook et Clark, chercher enfin le passage au nord qu'il n'avait pas trouvé. Aussi avait-il confié la rédaction des instructions à donner au navigateur à l'homme le plus compétent qu'il y eut alors en France, à Claret de Fleurieux, qui, non content d'être un marin habile, suivait depuis de longues années, avec un intérêt toujours croissant et une compétence absolue, le mouvement des découvertes opérées dans les mers du Sud et en Océanie par Kerguelen, Crozet, Marion, Surville et par l'immortel Cook, la gloire de l'Angleterre. Les cartes avaient été dressées par Buache, géographe expérimenté, neveu et continuateur de Philippe Buache, et à qui un mémoire sur la terre des Arsacides avait valu l'entrée de l'Institut. Après avoir prescrit au commandant de l'expédition la route qu'il devait suivre et les points principaux sur lesquels son attention devait être appelée, après lui avoir recommandé de s'attacher à recueillir toutes les informations qui pouvaient être utiles au commerce et à la politique, Fleurieu lui traçait le plan d'une collection ethnographique à rapporter. Habillements, armes, ornements, meubles, outils, devaient être rassemblés dans toutes les relâches, et chacun de ces objets devait être accompagné d'une étiquette indiquant sa provenance et son usage. Bien entendu, on insistait sur tout ce qui a trait à l'hydrographie, vue de côté de port, dessins de toute nature. Enfin venaient des notes historiques et géographiques du plus haut intérêt sur certains points à contrôler, notes dans lesquelles étaient résumés et analysés tous les voyages accomplis dans une même région. L'Académie des sciences, jugeant avec raison qu'il fallait profiter de cette occasion, pour faire des observations dans des localités difficiles d'accès, avait rédigé des instructions assez détaillées, où elle recommandait particulièrement aux voyageurs d'étudier la longueur du pendule à différentes latitudes, de s'appliquer à la détermination des longitudes, d'étudier le phénomène des marées, la variation de la boussole et la température de la mer à diverses profondeurs. Elle terminait par quelques questions relatives à l'ethnographie et à l'anthropologie, questions dont certaines se confondaient avec les demandes faites par la société de médecine, qui avait plus particulièrement en vue l'hygiène, les maladies, l'anatomie et la physiologie. Enfin, le jardinier en chef du jardin des plantes, Toin, avait dressé un mémoire pour guider le jardinier dans ses essais d'acclimatation de plantes et d'arbustes d'Europe, dans le choix à faire des espèces tropicales qu'on voulait introduire dans certaines de nos colonies. Comme on le voit, rien n'avait été négligé pour la réussite de l'entreprise. Certains instruments d'observation qu'on avait pu se procurer à Paris avaient dû être achetés à Londres. C'est ainsi que M. Banque, apprenant que l'ingénieur Monneron ne pouvait trouver dans cette dernière ville de boussole d'inclinaison, lui fit prêter celle qui avait servi à Cohoc. En somme, on avait consacré à l'achat de marchandises destinées à être offertes en présent ou destinées aux échanges une somme de 58 365 livres, et l'on avait dépensé 2330 livres à l'acquisition de graines et d'arbustes. Le chef de l'expédition était Jean-François Gallo de la Pérouse. Né à Albi en 1741, il était entré à 15 ans, comme garde, dans la marine, et avait fait aussitôt 5 campagnes de guerre, dont la dernière s'était terminée par la bataille livrée aux Anglais par le maréchal de Conflans, et y avait été gravement blessé sur le Formidable, commandant Saint-André du Verger. Après 3 nouvelles campagnes sur le même vaisseau, la Pérouse fut nommée enseigne, le 1er octobre 1764. Continuant à naviguer, tantôt en sous-ordre, tantôt en chef, sur de petits bâtiments, comme les flûtes à la Seine, ou les deux amis, il passa lieutenant, le 4 avril 1777. 2 ans plus tard, il commande l'Amazone dans l'escadre de Destin, assiste à la prise de la Grenade, à la bataille contre l'amiral Biron, s'empare d'une frégate anglaise, et contribue ensuite à la prise d'une autre. En 1780, il est promu capitaine de vaisseau et ne tarde pas à se signaler dans les eaux de l'île Royale par un nouveau fait d'armes. Commandant la frégate Lastrée, il croise avec l'Hermione, commandant de la Touche, lorsqu'il découvre 6 navires anglais. Malgré la disproportion des forces, nos deux frégates livrent bataille. 2 anglais sont pris et les autres profitent de la nuit qui arrive pour échapper au même sort. C'est à ce moment que la Pérouse reçut la mission de détruire les établissements anglais de la baie de Saône. Il avait sous ses ordres le sceptre, de 74 canons, et 2 frégates, Lastrée, capitaine de l'Angle, et l'Engageante, commandant de la Jaille, officier qui devait faire en 1784 une instructive croisière à la côte occidentale d'Afrique. Le détroit du De Saône et la mer qui porte le même nom n'était guère plus fréquentée à cette époque par les bâtiments de la marine royale qu'il ne le sont aujourd'hui. Mais nous possédons à cette heure des cartes fidèles de ces localités, tandis qu'alors on n'y pouvait guère naviguer qu'à tâtons. On n'avait que la mauvaise carte, qui accompagne les relations du voyage du De Saône, dont 2 traductions françaises avaient paru en 1749, et en 1750, mais on trouvait dans les cartons de la marine plusieurs cartes manuscrites dues à nos coureurs des bois, itinéraires, et cartes bien plus exactes que celles que nous venons d'indiquer. Tous ces documents, et notamment la carte de l'hydrographe de la marine, Bellin, ne concordaient guère entre eux, et avec le cartouche de la baie du De Saône, que l'anglais Mitchell avait joint à sa grande carte de l'Amérique septentrionale. Au péril que les glaces firent courir au bâtiment, vinrent s'ajouter les dangers de cartes fautives, et ceux qui sont inséparables d'un climat extrême. La Pérouse navigua donc avec une infinie prudence, ce qui ne l'empêcha pas d'essuyer quelques avaries avant d'atteindre les forts du prince de Galles et d'York, qu'il détruisit sans éprouver de résistance. Ayant appris que des Anglais avaient fui dans les bois à son approche, il eut l'humanité de laisser pour eux sur le rivage des armes et des provisions, puis regagna la France sans incident, d'un caractère enjoué quoique sérieux. La Pérouse était très appréciée de ses collègues, et le choix qui fut fait de lui par le ministre fut unanimement approuvé. L'état-major de la Boussole se composait en outre de deux lieutenants de vaisseau, messieurs de Clonard et d'Escure, dont le premier fut promu au grade de capitaine de vaisseau pendant la campagne, messieurs Boutin, de Pierrevert, Collinet, Enseigne, et de quatre gardes-marines. L'Astrolabe était commandé par M. de Langle, dont nous avons parlé, le second était M. de Monti, qui fut promu capitaine de vaisseau au cours du voyage. Quatre enseignes et trois gardes-marines en complétaient l'état-major. Un assez grand nombre de savants avaient été répartis sur les bâtiments. C'était le capitaine du génie de Monneron, l'ingénieur Bernizet, Rollin, chirurgien-major, le pote d'Agelet, de l'Académie des sciences, le physicien de la Manon, l'abbé Monge, l'illustre Monge, que sa santé délabrée força de débarquer à Tenerife, le botaniste de la Martinière, docteur en médecine de la faculté de Montpellier, de l'Essai, vice-consul de Russie, et plusieurs autres naturalistes, jardiniers, dessinateurs. Monsieur de la Pérouse était arrivé à Brest le 4 août, afin de veiller aux derniers préparatifs. Les deux frégates étaient passées en rade 7 jours plus tard. Déjà tout était paré, le vent d'ouest seul s'obstinait à ne pas permettre la sortie des bâtiments, lorsqu'enfin, le 1er août, une jolie brise favorable s'étant élevée, le bruit s'était répandu que la Boussole et l'Astrolabe allaient enfin partir. Au moment où l'on fila les câbles, les bâtiments étant mouillés sur des ancres du port, une longue acclamation s'éleva du rivage. Aux cris répétés de « Vive le roi » se mêlaient les adieux et les souhaits de bon retour. Spectacle toujours le même, que n'oublient jamais tous ceux qui ont assisté, dans un port quelconque, au départ d'un navire. Mais, cette fois, c'était un dernier adieu, qu'on donnait sans s'en douter aux partants. Car, à bien peu d'exceptions près, ces savants distingués, ces officiers d'élite, ces braves et hardis marins, ne devaient jamais revoir la France. Le commencement du voyage n'eut rien d'intéressant, les navires étant constamment poussés par un vent favorable, circonstance heureuse, car ils étaient tellement chargés qu'ils ne manœuvraient que fort difficilement. Le 13 août, on mouillait à Madère, mais l'ancre n'avait pas encore mordu le fond qu'un canot chargé de fruits accostait la Boussole. Il était expédié par un négociant anglais, M. Johnston, qui avait déjà reçu de Londres plusieurs lettres de recommandation, lettres émanées de personnes que ni la Pérouse, ni aucun de ses officiers ne connaissaient, ce qui ne laissa pas que de surprendre le commandant. L'accueil qu'il reçut de M. Muret, consul d'Angleterre, fut on ne peut plus cordial, et l'aurait engagé à prolonger son séjour, s'il avait pu se procurer du vin de Madère, mais celui-ci était d'un prix si élevé, qu'il jugea pouvoir en trouver à un bien meilleur compte à Tenerife. Après avoir rangé à une demi-lieue l'île Salvage, formée de laves et d'autres matières volcaniques, la Pérouse jeta l'ancre devant Tenerife. Le 19 août. Il reconnut très vite combien étaient exactes les observations de ses devanciers Fleurieu, Verdun et Bordin. Aussi se borna-t-il à faire vérifier ses instruments, et surtout ses horloges marines. En 43 jours, Elle ne donnait qu'une erreur d'un quart de degré, résultat très satisfaisant. On fit aussi quelques expériences de pendule afin d'arriver, en comptant le nombre de ses oscillations en un temps déterminé, à fixer la force de gravitation des tirés-corps aux différentes latitudes. Des observations de latitude et de longitude, ainsi que des expériences sur les boussoles d'inclinaison, tels furent les travaux scientifiques de cette relâche. Pendant ce temps, les naturalistes et plusieurs officiers faisaient l'ascension du fameux pic de Ted. Monsieur de Monneron avait entrepris de le niveler jusqu'à la mer, opération qui n'avait jamais été faite. Il avait surmonté les plus grands obstacles, et déjà il voyait la fin de son travail, lorsque, arrivé en une plaine très élevée, mais facile d'accès, il ne put déterminer ses guides à l'accompagner plus loin, les mules n'ayant pas bu depuis 72 heures. S'il ne put achever ce nivellement, il en fixa néanmoins les principaux points et arriva, assure la Pérouse, à un résultat beaucoup plus satisfaisant que ses prédécesseurs Herberdan, Fouillé, Bouguet, Verdun, Borda et Pingret, qui donnent au pic 2409 et 2213 toises de hauteur. Le travail de Monneron n'est jamais parvenu en France. Les tirets de chiffres extrêmes que nous donnons ci-dessus correspondent à 4695 et 3710 mètres. On attribue aujourd'hui au pic de Ted 3,808 mètres, hauteur déjà fort respectable. Ce qui avait forcé la Pérouse à rester à Tenerife plus longtemps qu'il n'aurait voulu, c'est qu'il avait dû embarquer 120 pipes de vin de Rotava, localité qui, avec Malvoisie, passe pour fournir le meilleur vin. Reprenant la mer le 30 août, le commandant ne voulut pas faire relâche aux îles du Cap Vert, qui sont fort malsaines à cette époque de l'année, et fit voile pour la Trinité, où il comptait se procurer du bois et de l'eau. La navigation jusqu'à la ligne n'offrit aucun incident digne de remarque. Les vents forcèrent les deux frégates à prolonger la côte d'Afrique à une soixantaine de lieues, et on ne put couper l'équateur que par 18 degrés de longitude ouest. Sur un espace de 11 degrés, les bâtiments furent presque constamment environnés de thon, mais on en put pêcher fort peu, parce qu'ils étaient si gros qu'ils cassaient toutes les lignes. Chacun de ceux compris pesait au moins 60 livres, à point de nourriture qui n'était pas à dédaigner, car il permettait d'économiser les conserves, en même temps qu'il fournissait aux équipages un repas frais. Le 16 octobre, furent aperçus les îlots de Martin Va, rochers séparés entre eux par de très petites distances, et qui, vus d'un peu loin, paraissent comme cinq têtes. Ils doivent leur nom à un navigateur portugais qui les découvrit au commencement du XVIe siècle. L'île de la Trinité n'est guère éloignée que de 9 lieues. On y aperçut un pavillon portugais qui flottait au-dessus d'un petit fort contre lequel s'étaient accroupis 5 ou 6 maisons en bois, ce qui semblait indiquer que les Anglais, qui s'y étaient établis, avaient laissé la place à de nouveaux possesseurs. La vue de cette île, qui fut aussi désigné sous le nom d'Ascensão, n'avait rien d'engageant, et la Pérouse, d'après les maigres et chétifs bouquets d'arbres qui ont acheté les montagnes, jugea qu'il n'en pourrait tirer les ressources sur lesquelles il avait compté. Néanmoins, il ne fallait pas s'en tenir à une apparence qui pouvait être trompeuse, et, le 18 octobre, la boussole expédia un canot aux ordres de Monsieur de Vaugeois et de naturalistes. La lame était si forte que l'embarcation eut infailliblement péri sans les secours que les Portugais lui donnèrent immédiatement. La garnison se composait de 200 hommes, dont 15 seulement en uniforme, le reste en chemise. Le pauvre gouverneur avait une telle crainte qu'on s'aperçut du misérable état de son établissement, qu'il déguisa sciemment la vérité, annonçant une garnison de 400 hommes, un fort armé de 20 canons, alors qu'il n'y en avait pas un seul en batterie, se refusant enfin à laisser les botanistes s'éloigner du rivage, car il ne leur aurait pas fallu longtemps pour s'apercevoir de ces hableries, et refusant tout secours, sous prétexte que l'île ne fournissait rien, et qu'on lui envoyait tous les 6 mois, ses vivres de Rio de Janeiro. Un second canot, pendant ce temps, avait porté en vue du rivage messieurs Boutin et de Monneron, qui dessinèrent le fort, levèrent le plan du port, et reconnurent que cette île était des formations volcaniques. Persuadés de l'inutilité de nouvelles démarches auprès du gouverneur, qui ne pouvait réellement se priver d'une partie de ses approvisionnements, et convaincus qu'aucun essai de culture n'avait été tenté à la Trinidad, la Pérouse fit voile pour l'île Sainte, Catherine, à la côte du Brésil. D'après de Manviette, un hydrographe français, dont les travaux exacts et précis tirent foi, jusqu'au XIXe siècle, plaça son lieu dans l'ouest de la Trinité, et à 15 minutes seulement dans le sud, une île qu'il appelle Ascension. La Pérouse était à peu près convaincue que les deux îles n'en étaient qu'une seule, mais, comme ses instructions lui prescrivaient d'éclaircir ce point, du 18 au 24 octobre, il croisa dans ces parages sans parvenir à avoir la moindre connaissance d'une autre terre. Le général Millet Mureau, éditeur de la relation de notre voyageur, fait un reproche à la Pérouse de n'avoir pas poussé cette recherche plus à fond, et d'être arrivé presque en vue de l'île Ascensão. Mais les autorités sur lesquelles le général s'appuie n'étaient pas suffisamment sérieuses. Quelle foi ajouter à cette enseigne qui aurait relâché sur deux îles, mais qui, dépourvue d'instruments pour en déterminer la longitude avec précision, n'avait pu en fixer que la latitude. On a renoncé aujourd'hui à faire figurer sur les cartes l'île Ascensão, mais, à la fin du XVIIe siècle, la géographie était encore encombrée de quantités de noms d'îles fantastiques, comme Saxembourg ou Saint-Brandan, ce qui s'explique facilement par le peu de sûreté des observations de longitude. Le 25 octobre, un orage très violent se déchaîna, pendant lequel le feu Saint-Elme se posa sur la pointe des mâts des vaisseaux. Ce fut le commencement d'une série de mauvais temps, qui conduisirent l'astrolabe et la boussole, jusqu'à l'île Sainte-Catherine, et de brumes aussi épaisses que celles qu'on rencontre en plein hiver sur les côtes de Bretagne. Si, après 96 jours de navigation, lorsque l'on mouilla, le 6 novembre, entre le continent et Sainte-Catherine, il n'y avait pas un seul malade à bord des deux frégates, il fallait reconnaître qu'on le devait, et à l'excellente qualité des vivres et aux précautions hygiéniques prises par le chef de l'expédition, en même temps, qu'aux soins qu'il avait eus d'entretenir la gaieté à bord, en faisant danser les équipages, alors que le temps le permettait. Tout ce commencement de voyage était de bon augure, et, si la suite répondait à ses prémices, on pourrait dire que jamais circumnavigation n'aurait été plus favorisée. Par malheur, on n'était pas encore, à vrai dire, rendu sur le théâtre des opérations. On avait peloté en attendant partie, l'ère des difficultés n'allait commencer qu'après la traversée du détroit de Magellan.